Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Donc nous continuons notre enquête sur la culture générale, qui est faite à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et toujours disponible en librairie. Alors où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre 6 de cet ouvrage qui s'intitule « Psychomachie ou le combat de l'âme ». Nous avons vu lors de la précédente émission que la fonction du rêve était précisément de compléter, de compenser ou de corriger ce que la vision du conscient a de trop unilatéral, c'est-à-dire de trop partiel et de trop partial. Alors voyons maintenant ce qu'il en est de la peur, de l'inconscient et de l'agressivité. Alors l'inconscient qui se manifeste dans les rêves est en lui-même neutre axiologiquement. Il ne devient dangereux que lorsqu'il est brimé. Tous les chasseurs savent qu'un animal devient redoutable lorsqu'il est blessé. Et de même, c'est à proportion de l'intensité du refoulement que l'inconscient est dangereux. Peut-être que l'agressivité tout entière dans la vie vient de la peur ressentie au fond de soi. Un chien, par exemple, qui aboie et qui montre ses crocs, c'est qu'il a peur à l'intérieur de lui-même. Si nous faisons mine de nous protéger de lui ou de nous enfuir, alors il nous mordra. Mais si nous nous approchons de lui calmement, il nous léchera les mains, sauf évidemment s'il est dressé pour attaquer, bien sûr. Eh bien, de la même façon, on peut concevoir que l'homme agressif, c'est un homme qui a peur. Quand on n'a pas réglé ses comptes avec les monstres que l'on a en soi, au fond de soi, c'est alors qu'on terrorise les autres. Qui a peur fait peur, vous voyez, et il est de la plus haute importance, sociale et politique, pourrait-on dire, que les gens n'aient plus peur à l'intérieur d'eux-mêmes. Le « n'ayez pas peur » de l'Évangile est peut-être une des paroles les plus profondes. L'inconscient, en réalité, ne doit pas être nié, mais il doit être apprivoisé. Et de dangereux et effrayant au début, il devient rassurant à la fin. Vous voyez, prenez le cas d'un ours. L'ours est un animal redoutable, mais l'ours en peluche est protecteur pour le petit enfant, vous voyez. Donc il faut savoir utiliser l'inconscient en songeant que ce qui peut submerger, par exemple le vent, les flots, etc., porte aussi et conduit. Le voilier peut être renversé par le vent, mais s'il n'y a pas de vent, il n'avance pas. Je pense aussi à celui qui fait de la planche à voile ou bien au kitesurfer d'aujourd'hui. On peut voir dans ces personnages un admirable archétype ou une icône parfaite de la dialectique du moi et de l'inconscient, chère à Carl Gustav Jung, vous voyez. Sur le lien qu'il y a entre le sentiment de faiblesse, le sentiment d'agressivité, vous voyez ce que dit Sénèque dans le De Vita Beata, chapitre 3, paragraphe 4. Il nous dit « Omnis enim ex infirmitate feritas est », c'est-à-dire « toute férocité provient de la faiblesse », vous voyez. Donc, c'est parce qu'on se sent faible. Pourquoi les petits chiens, par exemple, aboient-ils le plus fortement ? Parce qu'ils sont petits, précisément. Ils ont sentiment de leur propre faiblesse. Ce sont les petits chiens qui aboient le plus fort, vous voyez. Donc, et à trop se déprécier, on risque de devenir violent et agressif. Je prends le cas de Saint-Paul, qui s'appelait Saül et qui a pris après le nom de Paulos, c'est-à-dire petit, qui se nomme lui-même un avorton dans la première épître aux Corinthiens. Christ m'est apparu à moi comme un avorton. Mais le même Paul peut faire preuve dans certaines de ses lettres d'une grande violence, d'une grande agressivité. Par exemple, il dit, si quelqu'un vous prêche un évangile différent du mien, qu'il soit anathème. Je crois que c'est dans l'épître aux Galates, qu'il soit anathème. Donc vous avez une grande agressivité chez Paul qui est corrélée, à mon avis, au fait qu'il s'humilie, qu'il se déprécie trop. Pour reprendre notre exemple, l'exemple des contes de fées, une méchante sorcière n'est qu'une fée qu'on a offensée, que l'on a oubliée, par exemple, à un baptême, etc. Elle devient méchante par corrélation à un outrage qui lui a été fait, vous voyez. Voyez aussi le fier baiser au Moyen-Âge. Il consistait dans le fait d'embrasser le monstre pour le métamorphoser, hein, un peu comme Julien embrasse le lépreux dans la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, un des trois contes de Flaubert. Hein. Et Rilke nous dit dans ses lettres à un jeune poète, « Sans doute nos dragons ne sont-ils que des princesses qui n'attendent de nous que de nous voir courageux et décidés, vous voyez hein. ?» Donc, une fois aimé, le monstre va devenir aimable. Hein. C'est la leçon du conte « La Belle et la Bête ». Tout le monde connaît le film de Cocteau tiré de ce conte. Hein. Bon, aimons le monstre, eh bien, il va se métamorphoser en prince charmant, c'est-à-dire quelque chose d'aimable. Alors, j'ai déjà signalé le cas du victorianisme au XIXe siècle dans le Royaume-Uni. À force de se faire violence, il est devenu lui-même violent. Hein. Et le siècle le plus inhibé et le moins violent peut-être factuellement, c'est le XIXe siècle, et le plus violent symboliquement. Hein. Il a transformé le dolorisme chrétien en culte romantique de l'échec. Hein. Voyez par exemple la fin de l'éducation sentimentale de Flaubert, l'avant-dernier chapitre, hein, où l'échec est euphémisé. Et ce triste siècle, ce 19e siècle, triste, dépourvu d'humour, il annonce peut-être la plus grande violence factuelle que le monde ait connue, celle du 20e siècle. Vous voyez, hein, l'Angleterre victorienne a condamné Oscar Wilde pour homosexualité et elle suscite peut-être Jack l'éventreur et les monstres, vous voyez. Bon, donc, bien sûr, il faut prendre ces exemples comme des directions de pensée hein, et non pas des affirmations ponctuelles, si vous voulez. Mais plus le 19e siècle a valorisé le contrôle de soi, eh bien, les pulsions refoulées ont éclaté au 20e, hein, à force de nier le diable, nous avons ouvert toutes grandes les portes de l'enfer, disait Jung, en pensant au camp de concentration nazi. Alors prenons un nouvel exemple sur la séparation justement dommageable que fait le conscient entre son idéal et ce qu'il est réellement. L'exemple de la différenciation sexuelle, hein, qui, à mon avis, est quelque chose de très problématique. Je prends par exemple un rêve d'ombre que Jung a analysé. Il s'agit d'un rêve fait par un homme par ailleurs viril, qui se voulait viril. Il rêvait cet homme d'un travesti outrageusement maquillé qui cherchait à l'embrasser. Hein. Eh bien, c'est un rêve d'inversion classique. Hein. Notre société valorise la différenciation sexuelle. L'éducation traite différemment les garçons et les filles. On accoutume les garçons à l'idée qu'ils ne doivent pas pleurer, que ce qui est permis aux filles ne l'est pas pour eux. Les jouets sont distincts pour les garçons et les filles. Il se produit donc une différenciation marquée, car l'homme va refouler sa partie féminine. Et la féminisation de l'homme apparaît alors comme le tabou majeur, vous voyez. Donc le travesti outrageusement maquillé dont j'ai parlé pourra devenir l'ombre maximalement opacifiée ou densifiée du rêveur, vous voyez. Alors ce que je viens de dire est peut-être combattu aujourd'hui par la théorie du genre. La théorie du genre nous dit que le sexe est culturel beaucoup plus que biologique. Moi, je veux bien, et je l'écoute avec attention et sympathie. Bon, néanmoins, il y a quand même des cultures qui cantonnent les garçons dans le rôle des garçons et les filles dans le rôle des filles. Par exemple, circoncision et excision sont des violences, pas seulement des violences symboliques, en l'occurrence, mais réelles, hein, qui sont faites pour maintenir le garçon et la fille chacun dans son propre sexe, vous voyez hein. Et pourtant, l'androgynie, c'est-à-dire l'androgyne, c'est un être qui est à la fois homme et femme, si vous voulez. L'androgynie a toujours hanté les cultures comme modèle de totalisation en un seul être de ces deux parties qui sont à nouveau réunies, par-delà la fatalité de leur séparation. Vous voyez, du banquet de Platon aux sculptures hermaphrodites que vous avez au Louvre, par exemple, hein, ou bien au castrat vénitien, de Mademoiselle de Maupin de Gautier à la Reine Christine, hein, film avec Garbeau de Robin Mamoulian, je pense, hein, ou bien encore à Victoria de Blake Edwards, hein, eh bien l'archétype type de l'homme-femme ou de la femme-homme n'a cessé de hanter et de fasciner l'inconscient, vous voyez. Alors, il y a des vertiges, justement, que nous pouvons éprouver en regardant ses œuvres. Par exemple, je pense à certains Lemchaud ou bien à Tutsi, etc. Il est stupide de rire de cela, hein. Il ne s'agit pas de la cage aux folles, hein. Ça, c'est une mauvaise action de rire de ces choses-là, hein. Mais au contraire, certains Lemchaud ou Tutsi suscite en nous des vertiges et nous ébranle nos certitudes. Hein. Je pense qu'il faut condamner radicalement les histoires drôles ou dites drôles sur les homosexuels. Hein. Des films comme La cage aux folles ou comme Pédale douce, par exemple, je dirais, sont à la Reine Christine, hein, de Mamoulian, ce que les vignes du Seigneur sont à Moderato Cantabile, par exemple, vous voyez. Donc, l'archétype de l'androgynie hante aussi les mœurs, hein. Il y a des modes unisexes, des cheveux longs pour les garçons, des voix féminines mâles, de ténors ou de haute-contre, dans certains groupes pop, naguère, je pensais à Alice Cooper ou Pink Floyd, etc. Hein. Je pense aussi au film Lawrence Anyway, Anyways de Xavier Dolan. Hein. Donc, tout ceci nous ébranle et nous ouvre sous nos pas des vertiges attirants et fascinants. Alors, vous voyez que ce rêve du travesti, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, implique un contexte non seulement personnel, mais aussi social qui éclaire ce rêve. Et aussi, bien sûr, la connaissance du passé, des images, des archétypes, non seulement de notre propre culture, mais des cultures autres. Hein. Le regard vierge n'est jamais bon. Hein. Donc, une fois qu'on a détecté l'ombre, qu'on a exploré la situation, le rêveur assailli par le travesti pourrait dialoguer avec sa partie féminine, spécialement avec son anima. Hein. Il ne faut jamais la laisser en jachère, cette partie féminine, car alors nous la subissons à notre insu. Par exemple, les hommes les plus virils à l'extérieur d'eux-mêmes peuvent être parfois les hommes les plus sentimentaux et les plus fleurs bleues à l'intérieur. Hein. Leur lecture, notamment, aurait beaucoup à nous apprendre là-dessus. Et de la même façon, les femmes les plus féminines à l'extérieur peuvent être les plus masculines, c'est-à-dire les plus calculatrices et les plus froides à l'intérieur. Hein. On retrouve ici le cas de la personnalité disjointe et scindée. Oui, à propos de l'androgynie primitive, j'ai parlé du banquet de Platon, mais on la trouve dans la Genèse, hein, dans le premier récit de création, dans la Bible juive, hein, puisque à propos de l'être humain, Dieu écrit mâle et Dieu dit, hein, le rédacteur écrit mâle et femelle, il les créa. Vous voyez, il les créa. Dieu fit l'être mâle et femelle à la fois. Hein. Donc, masculum et feminam, crea uit illos, hein, arène ou arsène kaitelu, hein, en grec, dans la Septante. Hein. Donc, ils furent créés mâle et femelle. Hein. Il s'agit du premier récit de création. Donc, il y a une androgynie fondamentale de l'être et peut-être une bisexualité potentielle. Vous en avez un exemple dans le bateau ivre de Rimbaud. Le bateau, c'est ce qui troue les flots et ce qui est aussi pénétré par les flots, hein, côté masculin, côté féminin. Et il y a une inversion constante des rôles dans l'amour, même hétérosexuel. La femme aussi peut être partie prenante. Hein. Je pense qu'il est absurde de parler, comme certains le font, de castration féminine. Hein. Donc, sur les travestissements et l'ambiguïté masculin-féminin, vous voyez des « As you like it » de Shakespeare. J'ai cité Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier. Il y a aussi Seraphitus Seraphita de Balzac et Orlando de Virginia Woolf. Hein. C'est un roman qui vise à critiquer la séparation victorienne des hommes et des femmes. Sur la voix androgyne, hein, voyez le film Farinelli de Gérard Corbiot, hein, inspiré du roman de Dominique Fernandez, Porporino ou Les Mystères de Naples. Hein. Les castrats, par exemple, sont des modèles fascinants, hein, c'est-à-dire des hommes qui chantent avec des voix féminines. Aujourd'hui, j'ai déjà signalé les voix de haute contre ou de contre-ténor, hein, ou alors les voix d'enfants, avant la puberté. Hein. Les voix d'enfants sont plus pures que les voix de femmes, qui sont plus sensuelles. Hein. Avant la mue, la spiritualité n'est pas troublée, je dirais, par la sensualité. Le Stabat Mater de Pergolèse gagne tout à être chanté par des voix masculines, de contre-ténor, par exemple. Hein. Prenez l'ange dans les cultures, il est asexué et par là, il est complet. Hein. Et l'évangile de Matthieu nous dit qu'il faut se faire eunuque pour entrer dans le royaume des cieux. Au paradis, il n'y aura plus des hommes et des femmes, mais des anges. Alors à prendre évidemment symboliquement, hein, et non pas comme l'a fait Origène qui a tiré de ce passage un argument pour se castrer, hein, la castration d'Origène. Non, il faut prendre ça symboliquement, se faire eunuque pour entrer dans le royaume des cieux. Hein. L'évangile selon Thomas aussi nous dit qu'il faut fondre le masculin et le féminin en un seul être. Donc l'ange, par son cri, voyez les élégies à Duino de Rilke, le cri de l'ange nous déchire précisément parce que il y a là quelque chose d'inconnu, hein, une sorte d'accès justement à une pureté perdue que la mue par exemple chez les garçons a menacé, a changé. Hein. Sur les anges, vous connaissez bien sûr le film de Wim Wenders, Les ailes du désir. L'enfant apparaît donc comme un androgyne mais menacé. Hein. Monterland, dans la ville dont le prince est un enfant, nous montre la fascination subjective justement exercée par l'enfant, mais aussi évidemment un danger objectif. Malheur à la ville dont le prince est un enfant, c'est une citation biblique. Je pense à ce que dit Lévi-Strauss à la fin de Triste Tropique. L'Occident a perdu sa chance de rester femme. Hein. D'après Lévi-Strauss, là je le commente, hein, au contact des croisades, c'est-à-dire au contact de l'islam, hein, à propos des croisades, l'Occident a changé et de féminin ou féminoïde qu'il était, il est devenu masculin. Et c'est vrai que si on regarde le chant grégorien, on y voit quelque chose de féminin, un recueillement tout féminin qu'il faut opposer à la polyphonie ascensionnelle qui a suivi cette époque. Quelque chose d'orgueilleux, de masculin. Dans l'architecture, regardez la voûte romane qui est comme un corps rond et accueillant qu'il faut opposer à la nef gothique qui est aiguë, anguleuse, dynamique et virile. Le clocher se dresse vers le ciel tel un phallus, etc. Hein. Donc, Wöhringer a parlé de la nervosité du gothique, vous voyez. Hein. Donc, c'est l'énervement et l'inquiétude de l'homme qui ne tient jamais en place. Je prends l'homme au sens de masculin, si vous voulez. Et désorbité, il a perdu son centre. Hein. Regardez la différence entre la danse chez les filles et les garçons. Je ne parle pas de la danse classique pour les filles, hein, mais chez la danse féminine, la danse traditionnelle, c'est une sorte de reptation sur le sol, hein, tandis que les garçons sautent. Hein, on dit les filles sont boum, les garçons sont hop là. Hein. Nijinsky, par exemple, voulait sauter de plus en plus haut. Hein. Quo non ascendam, jusqu'où ne monterai-je pas, vous voyez. Donc, il y a deux façons de vivre le corps, bien sûr, hein, et deux façons de le manifester, hein, dont l'une est plutôt féminine, me semble-t-il, et l'autre plutôt masculine. Alors, tout ce que je viens de dire doit être pris, bien sûr, avec un certain humour. Alors, il faut maintenant bien insister sur le rapport qu'il y a entre l'interprétation d'un rêve et le contexte social dans lequel il apparaît. Pour interpréter un rêve, il faut le relier au conscient du rêveur ou à la configuration générale de l'idéologie sociale à laquelle le rêve peut répondre ou par rapport à laquelle il peut se situer. Vous voyez, un rêve n'a de sens que par rapport à un contexte. Ce contexte, c'est la vie consciente et la vie passée du rêveur, et puis l'idéologie sociale environnante, la vision du monde collective ou l'esprit du temps. Et il va donc de soi que les éléments d'un rêve n'ont aucun sens en eux-mêmes, aucune signification en eux-mêmes, et que le sens du rêve se fait d'une relation avec une problématique psychologique particulière. Le sens, comme toujours, n'est que de circonstance. Par voie de conséquence, les fameuses clés des songes, qui prétendent délivrer un sens unique et définitif à des éléments tirés de leur contexte, n'ont évidemment aucune valeur. Vous avez de ces livres dans les rayons de développement personnel des librairies qui vous indiquent le sens de vos rêves selon l'élément que vous rêvez. Si vous rêvez d'un crocodile, ça veut dire cela. Si vous rêvez d'un lion, cela veut dire cela. Ça, c'est absurde parce que le problème est celui justement du contexte. C'est comme si on voulait donner sens à des mots sans voir la phrase qu'ils forment, dont les éléments sont des mots. Mais ensuite, la phrase d'abord restreint la polysémie initiale des mots et donc précise le sens. Il faut donc insérer le rêve dans l'ensemble d'un discours psychologique. Et ces ouvrages ou ces répertoires de symboles qui inondent, je le répète, nos supermarchés, ne s'occupent jamais de cette insertion. On prend la surface pour le fond. Alors, il ne s'agit pas là de culture, mais de sous-culture ou d'ersatz de culture. Et exactement de la même façon, certaines productions artistiques ne prennent leur sens que si elles sont reliées à un certain contexte psychologique et idéologique, ce qu'on appelle l'esprit du temps. Alors, qu'en est-il, par exemple, de l'âme en Europe au XIXe siècle, à l'époque d'Aurélien, de Nerval, de Madame Bovary, de Flaubert, ou d'Une saison en enfer, de Rimbaud, C'est le genre de question qui peut rendre compte de ces œuvres, expliquer, entre guillemets, leur apparition. Contre quoi ces œuvres sont-elles écrites? Sans doute, est-ce le positivisme ambiant qui les a suscitées par réaction? Monsieur Homais a appelé Madame Bovary, c'est-à-dire le matérialisme très court dans ses ambitions, a appelé celle qui se perd dans ses rêves, en quelque sorte. La dérive de Nerval dans Aurélia, ou le cri vengeur de Rimbaud à l'adresse de ses contemporains, par exemple dans Une saison en enfer, on lit « Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer », eh bien tout cela a rapport avec ce que Nietzsche a appelé le nihilisme européen. Voyez, et ici encore, comme dans le cas des rêves, le sens est réactionnel, psychologique et historique à la fois. La démarche de l'interprétation sera donc se demander devant un rêve, quels sont les éléments de la vie consciente du rêveur ou de l'idéologie sociale environnante que le rêve est destiné à compenser, compléter et corriger. J'avais dit lors de la dernière émission que pour Nerval, dans Aurélia, le rêve rachète en quelque sorte nos peines et punit nos joies. Donc, devant une œuvre d'art pareillement, il faut se poser la question suivante. Quels sont les éléments de l'idéologie sociale de la Weltanschauung environnante auxquelles l'œuvre apporte une contradiction, un démenti ou une correction? Alors, je sais bien qu'il y a des œuvres consonantes avec l'idéologie sociale, mais ce qui me paraît le plus intéressant, c'est d'étudier les œuvres dissonantes avec cette idéologie. Alors, le rêve a rapport aussi avec le symbole, les productions symboliques. Je vais terminer cette émission là-dessus. Si le rêve ne nous mettait que face à face à nos blocages, nos inhibitions ou bien aux traumatismes et aux conflits de notre enfance, nous ne serions pas beaucoup avancés. Mais je dirais que le rêve, et après Jung, je dirais que le rêve n'est pas que le symptôme, le signe, l'indice ou le signal de choses choses qui en nous ne vont pas bien. Le rêve ne montre pas seulement une cause, un processus étiologique. Étiologique, ça renvoie au grec aitia qui veut dire la cause. Hein. Cette étiologie serait la maladie personnelle ou sociale que le rêve manifesterait. Mais en plus de cela, le rêve a une perspective de finalité, de but. Bien distinguer deux choses ici. Une chose est un symptôme qui nous renvoie à notre passé et autre chose est un symbole qui invite à regarder vers l'avenir, à trouver une solution, entre guillemets, au problème ou un remède à la maladie. Le rêve est un réservoir d'archétypes. En cela, le rêve a la même structure que celle des fictions, des rites, des usages, des coutumes, des représentations culturelles en général, en mots ou en images. Il a une structure symbolique. La vision freudienne est assez désespérante, au fond. Dans le rêve, nous voyons ce qui ne va pas en nous. Hein. Donc c'est comme une poubelle, excusez la trivialité de l'expression, où nous voyons tous les rebuts, ce que nous avons raté, etc. Mais la vision de Jung est beaucoup plus optimiste. Le rêve ne regarde pas que vers le passé, mais aussi vers l'avenir. Hein. Et c'est ça le symbole, la réunion, Symballein. Hein. Et alors, de la même façon que l'individu isolé peut élargir sa personnalité en explorant et en scrutant ses rêves, de la même façon, une société ou une culture, puisque nous parlons de culture générale, peuvent s'élargir en explorant l'ombre aux dépens de laquelle elles se sont édifiées, vous voyez, et aussi en regardant quel est le statut de l'ombre dans les productions symboliques diurnes elles-mêmes. Hein. Qu'en est-il de l'ombre ? C'est sûrement la question essentielle à poser lorsqu'on aborde une production symbolique quelconque. Et alors, pour terminer, je veux vous montrer que les images, par exemple, ont aussi la même fonction. Les images sont symboliques. Il n'est pas sûr qu'ici, le langage des mots ait un privilège décisif. Une image comme celle de Saint-Georges à cheval terrassant le dragon, par exemple, dit l'essentiel ici, hein, est bien mieux que les mots. Le philosophe Alain disait que prier, c'était simplement regarder la croix au carrefour des chemins. Donc il arrive que l'image, bien souvent, dise plus qu'un long discours. Alors que nous dit cette image ? Ou dans le cas de la figuration chrétienne orthodoxe des choses, cette icône hein ? Eh bien, qu'un cavalier triomphe d'une bête, d'accord. Donc, que triomphe d'une bête, quelqu'un qui est lui-même monté sur une bête. Saint-Georges est à cheval, vous voyez. La bête est sombre hein, et le cheval est clair, il est blanc. Hein. Donc, le cheval, c'est la bête apprivoisée, domestiquée. Cheval et dragon sont un seul et même être, mais à deux moments différents, vous voyez. Donc, le dragon, c'est l'inconscient obscur ou le ça, dit Freud. Hein. Et le cavalier, c'est le moi hein, qui s'appuie sur le ça lui-même pour triompher du ça. Hein. On ne va pas nier le ça, mais on va s'appuyer sur lui. Hein. De la même façon que Tarzan, dans l'histoire connue, tue les animaux tout en se nourrissant de leur chair, en s'incorporant leur force. Hein. Donc on ne triomphe de l'inconscient qu'en se l'incorporant et en l'assimilant, en le domestiquant en quelque sorte. Alors, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas la tauromachie, mais je vais prendre cet exemple, de la corrida. La signification est identique. Hein. Le matador en habit de lumière, c'est le moi. Le taureau noir, la plupart du temps, incarne les pulsions. Hein, c'est un peu comme Thésée face au Minotaure. C'est le combat du héros contre les forces obscures. Et alors, la faena, hein, c'est une sorte de ballet ritualisé, un ballet hiératique, c'est-à-dire qui a rapport avec le sacré, qui signifie et qui célèbre l'union du moi et du ça. Les gestes doivent être lents, suaves et calmes. Et le mot espagnol temple exprime bien cela. Temple est à rapport au latin temperare, c'est-à-dire apaisé. Hein. C'est une notion importante pour juger de l'attitude du matador. Il doit avoir le temple. C'est le contraire d'un sport ou d'une gesticulation. Il ne doit pas y avoir ce que j'appellerais un tremendisme du latin tremere qui veut dire trembler. Hein. Le spectateur ne doit pas trembler, il ne doit pas avoir peur. J'ai parlé d'hiératisme. Il y a un hiératisme des attitudes au contraire qui fait que à la fin, les deux adversaires ne font qu'un et on perd l'idée d'antagonisme au profit de celle de communion, de de noces, en quelque sorte, ou d'épousailles. René Char dit, à propos du taureau, hein, couple du taureau de la corrida, hein, couple qui se poignarde unique parmi nous. René Char. Alors, je sais bien que ce que je viens de dire peut choquer beaucoup de gens, hein, qui trouvent dans la tauromachie une torture gratuite. Eh bien, je m'excuse d'avance auprès d'eux, hein, bien entendu. Restons-en alors à l'image de l'icône, hein, et de Saint-Georges monté sur son cheval. Cette image est plus sécurisante, moins choquante sûrement, mais il est certain que la partie animale de l'être humain ne doit pas, me semble-t-il, être niée, hein, mais elle doit être apprivoisée, elle doit être gérée en quelque sorte. Hein. J'avais dit dans une émission précédente la phrase de Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Donc il faut savoir respecter ces deux pôles humains, le moi conscient et le moi lumineux, et puis sa partie pulsionnelle, et les faire se réaliser en une unité finale. Hein. Donc je crois que le rôle des grandes cultures, c'est de célébrer les noces de l'humanité et de l'animalité. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'une régression à l'animalité qui serait extrêmement dangereuse, mais en quelque sorte d'une descente, yeux ouverts et lucides au fond de soi, au fond de ce qu'on a de plus instinctif et de plus pulsionnel. Voilà, et bien encore une fois, excusez-moi auprès de ceux qui n'aiment pas la tauromachie. Nous continuerons la prochaine fois sur les productions symboliques des rêves en analysant quelques cauchemars qu'ils contiennent. Rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.